d'Afrique. Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibault avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir. En Guinée, le nouveau Premier ministre annonce que les militaires pourraient garder le pouvoir jusqu'en 2025, contrairement à leur promesse initiale. Washington annonce des sanctions contre un réseau de financement des Chebabs en Somalie. Le Premier ministre haïtien a accepté de démissionner, mais c'est loin de régler les nombreuses difficultés du pays. Ici aux États-Unis, Donald Trump devrait être officiellement candidat républicain à la présidentielle après des primaires dans 4 États, dont la Géorgie. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Guinée, le nouveau Premier ministre Amadou Ouriba a reconnu que les militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 doivent le garder au moins jusqu'en 2025 et manquer à leur engagement initial de partir d'ici à la fin de cette année. Dans un entretien exclusif avec Idriss Fall, le Premier ministre Amadou Ouriba s'explique depuis Conakry.
Ce n'est pas une proposition faite sans l'examen de la situation qui prévaut en ce qui concerne l'avancement de la mise en œuvre des éléments du chronogramme, notamment le recensement administratif à vocation d'état civil qui permet de faire par une extraction le fichier électoral. Il y a eu des retards qui ont été constatés et de ce point de vue, sans le fichier électoral, il n'est pas du tout possible d'organiser des élections, quelle que soit leur nature. Maintenant, nous allons prendre le taureau par les cornes. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a d'ores et déjà indiqué que d'ici la fin de l'année de 2024, le référendum aura lieu en ce qui concerne l'adoption du projet constitutionnel. Et à la suite de cela, les autres élections vont être déclinées dans le temps. Donc, le principe de réalité prévalant, les élections ne pourront se tenir que dans le cours de l'année 2025.
C'était le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba. Il était joint à Conakry. Rendez-vous en seconde partie de cette édition pour un entretien plus en longueur. Au Niger, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, Michael Langley, accompagné de la sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, Molly Fee, et une responsable du Pentagone. Eh bien, cette délégation est à Niamey aujourd'hui et demain. Il s'agit de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août avec les militaires au pouvoir au Niger sur un retour sur la voie de la démocratie et sur l'avenir de notre partenariat en matière de sécurité et développement, a indiqué un communiqué. Washington avait suspendu sa coopération avec le Niger après le coup de force du 26 juillet. L'armée soudanaise a déclaré dans un communiqué qu'elle avait pris le contrôle du siège de la radio et de la télévision nationale des mains des FSR, les forces paramilitaires de soutien rapide. Le siège se trouve à Omdurman, la ville jumelle de Khartoum, de l'autre côté du Nil. Au Tchad, l'aide alimentaire aux centaines de milliers de réfugiés soudanais sera suspendue le mois prochain en l'absence de financement supplémentaire. C'est l'annonce faite aujourd'hui par le Programme alimentaire mondial. Depuis que le conflit a éclaté au Soudan il y a près d'un an, plus d'un demi-million de réfugiés soudanais ont fui vers le Tchad. Le PAM a du mal à nourrir tous ces réfugiés. Le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre 16 personnes et organisations commerciales accusées d'appartenir à un vaste réseau de financement et blanchiment d'argent pour les Chebabs, les islamistes radicaux somaliens. Nanit Talani.
Implanté dans la corne de l'Afrique et au Moyen-Orient, le réseau d'individus et d'entités désignés aujourd'hui a été impliqué dans la collecte et le blanchiment de millions de dollars par l'intermédiaire de plusieurs entreprises sous la direction et dans l'intérêt des Chebabs, affirme le Trésor américain dans un communiqué publié hier. Ces sanctions visent des hommes d'affaires influents dans la région, une société nommée Halil Commodities LLC, basée à Dubaï et disposant de filiales au Kenya, en Somalie, en Ouganda et à Chypre, une compagnie basée aux Émirats arabes unis, baptisée Kemat Al-Naja General Trading, qui servait d'important nœud de blanchiment d'argent et une compagnie de bus kényane ayant un rôle financier et logistique pour l'organisation islamiste. D'après Washington, les Chebabs génèrent plus de 100 millions de dollars par an grâce à l'extorsion auprès d'entreprises et de particuliers et au soutien financier d'hommes d'affaires qui leur sont affiliés. En 2022, les États-Unis avaient imposé des sanctions contre un réseau fournissant des armes aux Chebabs ainsi qu'au groupe État islamique en Somalie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, quatre États organisent ce mardi des primaires pour désigner les candidats démocrates et républicains à la présidentielle de novembre prochain. Le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump sont en passe de remporter suffisamment de délégués pour obtenir l'investiture de leurs partis respectifs. Mohamed Oumfa.
Les primaires sont organisées dans les États du Mississippi, de Hawaï, de Washington et de Géorgie. Dans le camp républicain, l'issue est sans surprise. Le dernier rival de Donald Trump, Nikki Haley, l'ancienne représentante américaine à l'ONU, a mis fin à sa campagne la semaine dernière, après le Super Tuesday où M. Trump a remporté 14 des 15 scrutins. Côté démocrate aussi, M. Biden est assuré de remporter l'investiture. Il n'a rencontré qu'une opposition symbolique jusqu'ici, bien que des militants libéraux, frustrés par son soutien à la guerre d'Israël à Gaza, ont convaincu une minorité de démocrates de voter blanc en signe de protestation. Les primaires en Géorgie sont suivies de près. Cet État du sud-est, frontalier de la Floride, penche traditionnellement pour le candidat républicain, mais en 2020, à la surprise générale, l'État a préféré le démocrate Joe Biden. L'écart entre les deux hommes était minuscule, moins de 12 000 voix, et Donald Trump n'a jamais reconnu sa défaite.
Le procureur spécial américain chargé d'enquêter sur la rétention de documents confidentiels par Joe Biden a défendu ce mardi devant la Chambre des représentants ses commentaires sur la mémoire parfois défaillante du président pour justifier sa décision de renoncer à le poursuivre. Quatre navires de l'armée américaine ont quitté une base en Virginie aujourd'hui, transportant une centaine de soldats et l'équipement pour la construction d'un port temporaire sur la côte de Gaza pour l'acheminement de l'aide d'urgence. Par ailleurs, le Qatar, principal pays médiateur dans la crise, a estimé ce mardi qu'Israël et le Hamas ne sont pas prêts d'un accord sur une trêve, même si les négociations se poursuivent. Des volontaires russes combattant pour l'Ukraine ont dit s'être infiltrés aujourd'hui en Russie et avoir pris le contrôle d'un village frontalier, une incursion que l'armée de Moscou a assuré avoir repoussée. La Russie a, elle, affirmé avoir capturé un village dans l'est de l'Ukraine, près de la ville de Donetsk, déjà sous son contrôle, au lendemain d'une annonce du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui assurait avoir stoppé l'avancée russe. Ariel Henry a démissionné de son poste de Premier ministre haïtien. Il quitte ses fonctions dans un contexte de flambée de violence des gangs qui secoue le pays depuis 2021. Alexandrine Rolognon.
Le départ du chef du gouvernement réclamé par les gangs et une partie de la population a été annoncé lors d'une réunion d'urgence des membres de la communauté des Caraïbes, CARICOM, et de représentants de l'ONU en Jamaïque. Ce neurochirurgien non élu, âgé de 74 ans, s'est rendu au Kenya à la fin du mois dernier pour obtenir de Nairobi la direction d'une mission de sécurité pour aider la police haïtienne à lutter contre les gangs. Suite à l'escalade de la violence à Port-au-Prince, il n'a pas pu rentrer et est resté bloqué dans le territoire américain de Porto Rico. Il a confirmé sa démission lors d'un échange téléphonique lundi avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui se trouvait en Jamaïque. La réunion de Kingston avait pour but de formaliser une proposition à Ariel Henry afin qu'il cède le pouvoir à un conseil de transition. D'après une déclaration de la CARICOM, ce conseil compterait 7 membres votants, représentant les principaux partis politiques, le secteur privé et le groupe Montana, une coalition de la société civile qui avait proposé un gouvernement intérimaire en 2021 après l'assassinat du président Jovenel Moïse.
Le Kenya a décidé de suspendre l'envoi prévu de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU, a indiqué le ministère kényan des Affaires étrangères. Les États-Unis ont immédiatement réagi. Le département d'État a affirmé ne pas voir de raison de retarder cette mission de police. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Abdourahmane Dia.
Les Nigériens ont entamé le ramadan dans un contexte de forte inflation. Dans le pays le plus peuplé d'Afrique, composé à 50% de musulmans, l'inflation galopante approche les 30% selon les chiffres du Bureau national des statistiques. La fin des subventions sur le carburant et le contrôle des devises, décidé par le président Tinubu, a fait tripler les prix du carburant et entraîné une hausse globale du coût de la vie dans le pays. En Algérie, les investissements dans le secteur énergétique ont dépassé 9 milliards de dollars en 2023 contre 8 milliards de dollars en 2022, a déclaré lundi le ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab. Toutefois, les revenus des exportations de carburant ont baissé de 16% et se sont situés autour de 50 milliards de dollars en 2023 en raison de la baisse du prix moyen du pétrole, a-t-il ajouté. Enfin, ici aux États-Unis, en dépit des mesures prises par les autorités fédérales, l'inflation est de nouveau en hausse au mois de février pour atteindre 3,2% sur un an contre 3,1% en janvier. Ces chiffres sont décevants pour les analystes qui prévoyaient une inflation stable. L'annonce de cette nouvelle intervient alors que la Banque centrale américaine, qui mène la lutte contre l'inflation, se réunit la semaine prochaine.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Football, pour commencer, on connaît les oppositions de quart de finale de la Ligue des Champions CAF.
Oui, le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au Caire, en Égypte. Le premier quart de finale va opposer le Simba SC, géant tanzanien, à Al Ahly SC, champion en titre et détenteur du record de victoire de la compétition. Assoiffé depuis son dernier sacre en 2015, le tout-puissant Mazembe va accueillir les Angolais de Petro à Lubumbashi lors du match aller avant de se rendre à Luanda. Pour le match retour, l'Espérance sportive de Tunis, quadruple championne de Tunisie, joue contre l'ASEC Mimosa, vainqueur en 1998. Dans le dernier quart de finale, l'autre géant tanzanien Young Africans, finaliste de la Coupe CAF la saison dernière, va se mesurer au Sud-Africain de Mamelodi Sundowns. Les matchs aller auront lieu les 29 et 30 mars et ce retour les 5 et 6 avril prochains.
Les oppositions d'écart sont également connues en Coupe CAF.
Gros derby égyptien entre Moderna Futur et le Zamalek, vainqueur de l'édition 2019. Les Libyens d'Abou Salem vont affronter les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, double vainqueur en 2020 et 2022. Les Nigériens de Rovers United défient le champion en titre, l'USM Alger. Champion de l'édition 2019, eh bien, le Stade Malien va affronter les Ghanéens de Dream FC en quart de finale.
Balle au panier avec les nouvelles de la Basketball Africa League.
Les matchs de la conférence à Kalahari se poursuivent à la Sandbet Arena de Pretoria. En principe, deux rencontres au programme, mais seul le match Cape Town Tigers, fils du Rabat, a lieu. Le match entre Dynamo Basketball Club du Burundi et Petro de Luanda n'a pas lieu. Une fois de plus, les autorités burundaises refusant que leur équipe porte les maillots où c'est inscrit, visitent Rwanda, sponsor officiel de la compétition. Dynamo Basketball Club a de nouveau refusé de se conformer aux règles et exigences de la Basketball Africa League concernant les maillots et les uniformes, déclarant ainsi forfait pour le match contre Petro de Luanda et pour sa participation à la saison 2024 de la balle. Selon les règles de la FIBA, deux forfaits dans le même tournoi entraînent un retrait automatique du club, a noté le président de la balle, Amadou Galofal.
Ici, en NBA, Jokic et Doncic en triple-doublé.
Denver s'est imposé 125-119 face aux Raptors de Toronto, une troisième victoire consécutive qui lui permet de remonter à la deuxième place de la conférence Ouest. Le Serbe Nikola Jokic a enregistré un triple-double, 35 points, 17 rebonds et 12 passes décisives. Le meneur slovène Luka Doncic, lui, a réalisé son septième triple-double consécutif, son 17e de la saison avec 27 points, 12 rebonds et 14 passes décisives pour mener Dallas à la victoire, 127 à 92 à Chicago. Les Suns de Kevin Durant ont battu Cleveland 117-111. Boston a engrangé sa 50e victoire de la saison en l'emportant 121 à 99 à Portland. Golden State s'est imposé 112-102 face à San Antonio.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Place au dossier du jour. En Guinée, le nouveau Premier ministre Amadou Ouriba a reconnu que les militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 doivent le garder au moins jusqu'en 2025. Il dresse un tableau sombre de l'état de son pays et a évoqué l'explosion du principal dépôt de carburant qui a fait 25 morts en décembre. Selon lui, il faudra d'abord un apaisement car le climat politique et social est assez tendu en Guinée. Dans un entretien exclusif avec Idriss Fall, Amadou Ouriba s'explique depuis Conakry.
C'est vrai, mais je pense qu'avec ma nomination, nous sommes en train de travailler à créer un nouveau type de rapport entre tous les éléments de la classe politique guinéenne et avec les acteurs sociaux également. Donc, avec l'aide de Dieu, on doit tenir le cap d'organiser le processus de retour à l'ordre constitutionnel de la manière la plus idoine en privilégiant l'intérêt de l'État guinéen et du peuple guinéen. Cela veut dire quoi? Nous voulons qu'il y ait des instruments permettant à la Guinée, de manière irrévocable, d'en finir avec des instabilités chroniques qui surviennent pratiquement au tournant de chaque décennie. D'où la nécessité de faire correctement le processus permettant d'avoir un fichier électoral crédible et qui ne pourra pas être contesté. C'est un challenge extrêmement important pour la stabilisation de la République de Guinée. Après ça, nous pourrons examiner avec lucidité, dans la suite de concertations élargies avec l'ensemble des acteurs, la fixation des dates des consultations électorales prochaines.
Est-ce que ces consultations vont inclure, je cite nommément Sellou d'Alain Diallo, avec qui vous aviez eu quelques bisbilles au sein de l'IFDG?
Je ne peux pas vous dire par oui ou par non. Je pense qu'il y a un dossier judiciaire qui est latent. Je ne me mêle pas des questions judiciaires qui concernent des justiciables. Wait and see.
Qu'en est-il des problèmes quotidiens des Guinéens? Coupure de courant, la vie chère et tout ça. Vous pensez pouvoir régler ça d'ici 2025?
C'est une situation particulièrement difficile. La demande sociale n'a pas été correctement satisfaite. Les impatiences se font entendre. Tant pour le quotidien, c'est-à-dire les questions de chèreté de vie, que la question de la desserte en électricité pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est un handicap extrêmement important pour l'ensemble des acteurs économiques et de la population dans notre pays. Nous avons été affectés par cette explosion au niveau du dépôt de carburant qui vraiment a été une catastrophe nationale. De l'autre côté, l'inflation importée, plus également, disons, une gestion qui n'a pas été tout à fait vertueuse au niveau de l'économie nationale, fait endurer des difficultés à la population. Et nous sommes en train de prendre des dispositions avec l'accompagnement et une bonne intelligence avec la Chambre de commerce de notre pays pour atténuer les difficultés en ce qui concerne l'accès aux denrées de première nécessité.
C'était le Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, depuis Conakry. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné, ce qui était réclamé par les gangs et une partie de la population. La communauté des Caraïbes, ou CARICOM, a tenu hier une réunion en Jamaïque où le secrétaire d'État américain Tony Blinken a promis une aide de 133 millions de dollars supplémentaires des États-Unis. Monsieur Henry est bloqué sur le territoire américain de Porto Rico et n'a pu rentrer à Port-au-Prince à cause des violences. Est-ce que cette démission va contribuer à ramener la paix en Haïti? Yacouba Ouedraogo a posé la question à Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Novelis à Port-au-Prince.
Pour le moment, le Premier ministre a annoncé sa démission. Il y a un conseil présidentiel de transition qui doit être formé. Ensuite, on doit trouver un nouveau Premier ministre, monter un nouveau gouvernement et s'atteler à se colter aux problèmes d'Haïti. Le Premier ministre était devenu un boulet. Il ne pouvait pas rentrer à Port-au-Prince. Son gouvernement n'était pas vraiment fonctionnel. Les gangs sont en train de prendre du terrain. Là, on est passé à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que pour le moment, les problèmes d'Haïti sont résolus mais sont en voie de l'être.
Qui pourrait composer ce conseil? Et est-ce que ce serait possible de mettre ce conseil en place justement?
Bon, pour le moment, on ne sait pas qui est-ce qui va composer ce conseil. Les discussions se sont terminées très tard hier soir. Aujourd'hui, on entend les réactions des partis politiques qui sont concernés par la composition de ce conseil. Ils doivent désigner des membres pour faire partie du conseil. Mais au moment où je vous parle, personne n'est encore désigné pour faire partie du conseil.
Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef de gang, avait demandé la démission du Premier ministre. Est-ce que vous pensez que cela va contribuer à apaiser justement ces gangs-là?
Le Premier ministre a remis sa démission, mais sur le terrain, rien n'a encore changé. C'est-à-dire les gangs contrôlent toujours les quartiers qui étaient contrôlés par les gangs. Le gouvernement était déjà en repli et incapable de fonctionner. Le Premier ministre est toujours à l'étranger et le conseil n'est pas encore monté. On doit encore une fois, malheureusement c'est le mot, attendre pour voir quelles seront les réactions des uns et des autres. Mais la situation est très compliquée sur le terrain.
Il y a les États-Unis qui annoncent une aide de 133 millions de dollars supplémentaires. Il y a le Canada qui annonce 93 millions de dollars. Il y a le Kenya qui va envoyer des troupes sur place. Est-ce que cela va contribuer à ramener la paix en Haïti selon vous?
Ça fait 16 mois qu'on parle de la nécessité de déployer une mission en Haïti. Depuis le mois d'octobre, le Conseil de sécurité a pris une résolution. Ça va faire 6 mois que cette résolution existe. On annonce les millions régulièrement, mais rien ne se passe concrètement. Les Haïtiens disent tous qu'ils attendent de voir quelque chose de concret.
Quelle est la vie quotidienne des Haïtiens présentement?
En province actuellement, c'est le calme. Le reste du pays fonctionne. En Port-au-Prince, c'est scindé en deux. Il y a une partie où les gangs ont établi leur périmètre, où il n'y a quasiment pas de transport public, pas d'entreprise ouverte, pas de marchands dans les rues. Et puis il y a une autre partie de Port-au-Prince, du côté de Pétionville particulièrement, où la vie continue, le transport en commun fonctionne, les entreprises sont ouvertes, les banques sont ouvertes, enfin... C'est la vie courante, normale, sauf que très tôt, les gens se rendent chez eux parce qu'il y a un couvre-feu.
Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Novelis, à Port-au-Prince.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Nations Unies affirment qu'au moins 20 enfants de Gaza sont morts de faim et les médecins disent que beaucoup d'autres souffrent de maladies physiques et mentales graves. Plus de détails dans ce reportage de Heather Murdoch avec la voix de Rosine Munezero.
Les enfants de la bande de Gaza n'ont pas été à l'école depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, mais les parents disent que pour l'instant c'est le moindre de leurs soucis. L'ONU affirme que plus de 12 000 enfants sont morts dans la guerre et 20 d'entre eux sont morts de faim ces dernières semaines. 17 000 ont perdu leurs parents ou en ont été séparés. Presque tous les enfants de la bande de Gaza ont été contraints de fuir leur maison et les parents disent que même les enfants les mieux traités sont traumatisés. Hekmat Al-Masri, une mère de Gaza.
Mon fils est constamment réveillé la nuit. Il pleure. Il dit, mon père me manque. J'aimerais que nous puissions rentrer chez nous. Je veux vivre la vie normale que nous avions l'habitude de vivre.
Le ministère de la Santé de Gaza affirme que près de 31 000 personnes ont été tuées. La guerre a commencé lorsque le Hamas a attaqué Israël, tuant 1 200 personnes et prenant au moins 240 otages. La plupart des plus de 2 millions d'habitants du territoire palestinien sont entassés dans des abris à Rafah, près de la frontière égyptienne. Dans l'hôpital Abu Youssef al-Najjar, les pédiatres affirment que tous les enfants souffrent de traumatismes psychologiques et physiques évidents et des conséquences de la faim. Le docteur Saïd Abdulrahman Mahmoud Marouf est pédiatre à l'hôpital Abu Youssef Al-Najjar.
Ils ont tous des problèmes de croissance. Ils sont tous malades. Même les mères n'ont pas de lait pour nourrir leur bébé. Elles disent, je ne peux pas produire de lait pour les nourrir et comment pourrais-je en acheter?
Selon ce médecin, certains enfants peuvent identifier les bombes, les avions et les membres de leur famille ou leurs voisins qui sont morts. D'autres gémissent et s'accrochent à leurs parents presque tout le temps. Beaucoup ont commencé à avoir des hallucinations, mais certains enfants gardent l'espoir de retrouver leurs proches. Abed Al-Razek Al-Mastri, 12 ans.
Je souhaite rentrer chez moi.
Hikmat Al-Mastri, une mère, dit que les parents ne peuvent pas répondre aux enfants quand ils demandent de la nourriture qu'ils avaient l'habitude de manger.
Les mères ne peuvent pas répondre aux questions de leurs enfants. Elles ne peuvent pas répondre à leurs besoins, même pour la nourriture. Les enfants demandent de la viande, du poisson, du chocolat ou des sucreries qu'ils avaient l'habitude de manger, mais nous ne pouvons pas les obtenir maintenant.
Les efforts déployés pour fournir de l'aide par voie aérienne ou maritime sont les bienvenus, mais ils ne peuvent remplacer l'afflux massif d'aide par voie terrestre.
Dans son rapport annuel d'évaluation des menaces mondiales, la communauté du renseignement des États-Unis a déclaré aux législateurs que la guerre en Ukraine est à un tournant dont l'issue dépendra de l'aide américaine. Le Sénat a demandé à la Chambre des représentants d'examiner le projet de loi sur l'aide à l'étranger d'un montant de 95 milliards de dollars. Voici le reportage de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès. Récit Nanit Talani.
À court de munitions et d'autres fournitures essentielles, l'Ukraine attend une nouvelle tranche d'aide de la part des États-Unis. Près de 60 milliards de dollars approuvés par le Sénat américain ne feront pas l'objet d'un vote à la Chambre des représentants, a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson. Des sénateurs ont déclaré lundi que l'absence d'aide serait une grave erreur. Mark Warner, président de la commission du renseignement du Sénat américain.
Je crains que la décision prise jusqu'à présent par la Chambre des représentants de ne même pas examiner une législation qui soutiendrait l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression de Poutine n'ait été l'une des décisions les plus imprévoyantes que je puisse imaginer en matière de sécurité nationale.
Dans son évaluation annuelle des menaces mondiales, la communauté du renseignement américain affirme que le président russe Vladimir Poutine s'attend à ce que le soutien occidental à l'Ukraine s'affaiblisse. Écoutons William Burns, directeur de la CIA.
Nous sommes à un carrefour profondément important pour l'Ukraine, pour la sécurité européenne et pour les intérêts américains à long terme dans le monde. Je pense qu'au bout du compte, avec une aide supplémentaire approuvée par le Congrès, se trouve la possibilité très réelle de cimenter un succès stratégique pour l'Ukraine et une perte stratégique pour Vladimir Poutine.
Le projet de loi sur l'aide à l'étranger comprend également des milliards de dollars de financement pour les pays de l'Indo-Pacifique afin de lutter contre l'agression chinoise. La directrice du renseignement national, Avril Haines, a déclaré aux législateurs que l'agression devrait s'intensifier au cours de l'année à venir.
Pékin continuera à utiliser ses forces militaires pour intimider ses voisins et pour orienter les actions de la région en fonction des priorités de la République populaire de Chine. Nous nous attendons à ce que la Chine alimente des plateformes plus avancées, déploie de nouvelles technologies et devienne plus compétente dans les opérations conjointes avec un accent particulier sur Taïwan.
Mais les républicains de la Chambre des représentants affirment qu'ils n'examineront pas le projet de loi sur l'aide à l'étranger tant que des changements ne seront pas apportés à la loi américaine sur l'immigration afin de rendre la frontière américano-mexicaine plus sûre.
Nous prenons l'argent de nos impôts durement gagnés et l'envoyons à 8000 km d'ici sans aucune fin en vue. Pendant ce temps, notre frontière est grandement ouverte et nos citoyens américains sont assassinés dans nos rues, c'est un problème.
Les démocrates de la Chambre des représentants et certains républicains étudie les possibilités de forcer un vote sur le projet de loi sur l'aide étrangère, qui comprend également près de 14 milliards de dollars d'aide à Israël et d'aide humanitaire à Gaza.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.